Donc, ma première question, en fait, ce serait justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer cet univers qu'on voyait déjà des influences un peu dans Mort Terrain, mais qui est vraiment plus assumé ici?
Que dire? Ben, d'abord, ce livre-là, j'ai d'abord choisi le terrain de jeu avant de choisir ce que j'allais faire comme Château de Sable. Donc, la Côte-Nord, à la base, c'est un territoire qui est important pour moi parce que j'ai passé beaucoup d'été et de Noël sur la Côte-Nord parce que mes deux parents viennent de Baie-Comeau et de Sept-Îles. Donc, quand on était petit, on allait passer les vacances de Noël, on allait l'été aussi. Donc, j'avais des souvenirs. Les souvenirs de l'enfance, ils sont très marquants, sont à la fois diffus et très, très imprégnés aussi dans le fond du cortex. Et j'avais envie, à un moment donné, de faire un livre qui se passait sur la Côte-Nord pour me replonger dans ce terrain-là. À l'origine, Mort Terrain même devait se passer sur la Côte-Nord. Puis finalement, j'ai placé ça en Abitibi là, pour toutes sortes de raisons. Mais je me suis dit, à un moment donné, je veux retourner là, je veux aller triper où est-ce que j'ai trippé. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ressorti Google Maps. On est allé à la roulotte de mon grand-père. La roulotte des Métiviers, c'est exactement la roulotte de mon grand-père au lac Burn. C'est là qu'on était, c'est là qu'on allait pêcher, tout ça. Donc, tous ces souvenirs-là m'aidaient à placer le décor du roman, de l'histoire. Puis, évidemment, pour un écrivain, c'est un très beau terrain de jeu, la Côte-Nord, parce que c'est surf and turf, hein, c'est mer et forêt. Donc, à cet endroit-là, le fleuve est tellement large que c'est la mer. Et il y a aussi la forêt qui est très présente. Donc, peut-être juste en Gaspésie, on peut se rapprocher de ce genre de dualité-là. Et je trouvais ça très inspirant. Puis en plus, j'avais besoin d'un pénitencier, ça tombe bien, il y a Port-Cartier à mi-chemin, un Baie-Comeau, puis donc, tout était en place pour cette histoire-là. J'avais aussi envie de raconter une histoire père-fille, parce qu'essentiellement, c'est avant même d'être un roman policier, pour moi, c'est vraiment l'histoire d'amour entre un père et une fille. Tu as dit tout à l'heure, j'avais fait 7 romans et j'ai fait aussi un livre jeunesse qui s'appelle C'est Flavie l'année passée avec ma fille de 7 ans, dont elle a fait tous les dessins. Et donc, c'est un projet qui nous a beaucoup rapprochés. Bon, sur un plan professionnel, il faut faire bosser une enfant. Donc, elle a un contrat, elle a des échéances avec un graphiste qui stresse parce que la publication, c'est bientôt. Elle stresse aussi. Je vais-tu être capable? Je suis tannée, j'ai plus le goût, je vais abandonner. Non, continue, tu vas être fière quand tu vas avoir ton livre dans les mains. Puis, bon, ben, là, elle est très fière, effectivement, de Flavie. Elle monte à tout le monde. C'est un coup de cœur renombré. On est allé signer au Salon du Livre et tout. Donc, tu sais, ça. Puis, quand on a les histoires de Flavie, c'est 10 petites histoires du quotidien d'une famille. Et ça, elle cite souvent Flaubert sans le savoir en disant Flavie, c'est moi. Comme Madame Bovary, c'est moi. Et donc, on a creusé beaucoup son histoire à elle, comment elle se sentait, tout ça. Puis je me suis beaucoup rapproché d'elle, en fait, au cours de cette aventure-là. Et j'ai donc poussé l'expérience en disant, imaginons un père qui est tout seul avec sa fille, donc dont la mère est morte en couche, qui suit, donc qui s'occupe de son enfant à temps plein. Il veut. Non. Et lui, à travers le livre, il a l'idée de dire, il faut pas que ta mère soit morte en vain, donc toi, il faut que tu aies une vie valable, c'est une belle vie. Donc, le père, c'est un dévouement complet, le dévouement ultime du père qui l'accompagne donc jusqu'aux années du cégep où est-ce que l'histoire commence, là. Donc, j'avais aussi touché le secondaire avec Steve dans La Chute de Spa. Et là, donc, on est dans l'univers jeune adulte. Et ça me permettait aussi d'avoir accès à l'univers féminin d'une fille. C'est à peu près la première fois où il y a un personnage, tu sais, la première fois, en fait, où il y a un personnage principal qui est une fille. Ça, c'est un bon défi d'écrivain de se mettre vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre qui est très différent de soi. Alors, il y avait toutes sortes de défis que j'avais envie de relever. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, quelle pourrait être l'absolue preuve d'amour paternel pour son enfant et tout ça. Puis là, j'ai tourné autour de ça. Puis c'est là que j'ai commencé à vouloir raconter cette histoire-là.
OK, donc le meurtre était la finalité. Mais justement, aussi, tu en as parlé tantôt, mais le roman commence avec en fait les scènes finales. Si on remet
Oui.
l'histoire dans l'ordre chronologique.
Oui.
Donc, comment est-ce que tu as décidé d'arriver avec cette structure narrative-là que je pense pas que tu avais explorée
Non.
avant?
C'est une structure relativement commune dans les films et dans les livres, c'est-à-dire qu'on commence par la fin, puis on part dans les profondeurs, puis on remonte à la surface graduellement. Essentiellement parce que l'histoire, si je la raconte dans l'ordre, puis je le sais parce qu'en corrigeant le livre, je le commençais par la fin pour voir si ça se tenait narrativement, là, chronologiquement. Si tu racontes cette histoire-là dans l'ordre, tu ne fais même pas un roman. Il n'y a aucun but parce qu'on connaît tout ce qui s'est passé, puis donc il n'y a pas d'intérêt. Comme un peu dans le film d'horreur, c'est intéressant que, qu'on en sache plus que les protagonistes. Le gars qui se brosse les dents, puis là on voit le méchant qui rentre par la fenêtre, puis là on est en montage alterné. Le gars qui se brosse les dents, ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver, il sifflote, tout va bien. Puis nous autres on dit attention, attention, il va dans la cuisine, il prend le couteau, attention, attention. Donc si on en sait plus, nous, que le personnage principal, ben on est dans une dynamique de suspense, de sensation. En fait, moi, l'idée, quand j'écris un livre, c'est de faire un livre immersif pour que les gens aient du plaisir et qu'ils se sentent impliqués dans l'histoire et dans la façon de la raconter. Donc, à partir de là, là j'ai dit, je vais la raconter par la fin. Et à un moment donné aussi, avec tout le territoire de la Côte-Nord, le fleuve et tout ça, puis je regarde, je perds souvent mon temps sur YouTube quand j'écris. Je regarde des vidéos de gens qui tombent, ça me fait beaucoup rire. Mais des fois, je m'accroche les pieds dans plein d'affaires, parce que YouTube, c'est tout et rien. C'est souvent n'importe quoi.
Ouais.
Mais c'est plein de choses aussi, dont des documentaires sur les zones abyssales de l'océan, les abysses, okay, qui m'intriguaient, m'intéressaient, les formes de vie qu'il y a là-dedans. C'est des territoires, on ne s'imagine pas. T'sais, on va dans un lac, on trouve ça profond, là.
Ouais.
C'est à 60 mètres de profond, mettons. Ça, c'est un gros lac. Alors, dans les abysses, au plus creux des fosses abyssales, on est à 11 km de profondeur. Là, je ne sais pas si on peut s'imaginer c'est quoi 11 km en termes de profondeur, de noirceur d'une part, parce qu'à partir de 600 mètres, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Là. Quand on dit plus de lumière, c'est une bouteille d'encre. Là. Et donc, et il n'y a pratiquement plus de vie non plus, parce qu'il y a tellement de pression, il faut imaginer 11 km, une colonne de 11 km qui pèse sur toute forme de vie. Et donc, on a des animaux à cartilagineux. On ne peut pas avoir des os, sinon ça casserait. Donc, c'est des formes de vie absolument improbables, d'une laideur épouvantable, mais complètement adaptées à cet environnement-là. Et après ça, je me suis dit, bon, ben imaginons qu'on... Je vais faire des... J'aime beaucoup, moi, dans mes romans, mettre des toiles de fond symboliques ou métaphoriques qui... Ça enlève, si tu n'accroches pas à ça... Tu peux quand même comprendre l'histoire, mais sinon, ça te donne un décor, une profondeur, une troisième dimension, pour être capable, un climat, par exemple. Là, je me suis dit, bon, on va commencer dans le fond des abysses, et puis chaque chapitre, il y a trois chapitres qui correspondent à des zones abyssales, donc des zones de profondeur, donc la zone adale, les fosses, après ça, la plaine abyssale, qui est le fond de l'océan, et après ça, la zone photique, où il y a de la lumière qui permet la vie. Puis bon. Et au fur et à mesure, on commence dans le fond, donc dans la prison, avec où il y a énormément de pression, où les taulards, où les prisonniers sont aussi laids que les créatures abyssales et qui sont capables de résister à cette pression-là aussi. Après ça, on remonte à la plaine abyssale où il y a des créatures qui se nourrissent de petits morceaux de cadavres qui sont tombés dans le fond de l'océan. Donc, c'est plein de charognards qui patrouillent, effectivement, qui correspondent aux journalistes pendant le procès. Et après ça, ben à la zone photique, on comprend dans le dernier chapitre, on révèle donc tout ce qui s'est passé. Donc, on a accès à l'action grâce à la lumière, en fait.
Mm-hmm. Ça fonctionne vraiment bien, en fait, la métaphore des abysses avec l'histoire. Là. Et la structure amène aussi, en plus du suspense qui est super bien ficelé, la tension dans le roman est très, très bien ficelée. Et ça amène aussi le fait qu'on pense savoir quels qui sont les personnages, puis en fait, au moins à chaque chapitre, il va falloir réévaluer tout ce qu'on pense d'eux. Ils sont comme insaisissables un peu, puis ça montre aussi un peu à quel point les apparences peuvent être trompeuses. On commence avec une vision de Michel qui, ben, on pense que c'est un meurtrier sanglant, on comprend pas tout ce qui se passe, il fait peur aux lecteurs comme il fait peur aux auteurs. Puis finalement, plus ça va, plus on comprend un peu plus sa profondeur.
Ouais.
Donc, puis j'ai l'impression que dans tous tes romans, ça revient un peu ces personnages qui font en fait revoir d'une autre façon les apparences trompeuses, qui font en fait creuser. Donc, est-ce que quelque chose qui t'inspire beaucoup?
Oui, tu as absolument raison de mentionner cet aspect-là. Parce que, par exemple, même quand dans le deuxième chapitre, où c'est la question du procès et de toute l'enquête, c'est vraiment là qu'il y a la dimension policière dans le roman. Je m'intéresse aussi beaucoup à la médiatisation du processus judiciaire. et sur les réseaux sociaux et dans les grands médias. Donc, je me suis inspiré de, par exemple, les grandes médiatisations de Luca Rocco Magnotta, où on a diffusé ces vidéos de démembrement en direct et tout. Et ça, j'avais traité un peu de ça dans Naufrage aussi, avec la sauvagerie des réseaux sociaux et l'absolue imbécilité des réseaux sociaux, dans la mesure où c'est une chambre d'écho qui vire à vide, où on ne dit rien, où tout est basé sur des préjugés et des jugements à l'emporte-pièce. Et c'est là qu'on se rend compte de la difficulté de la justice, d'établir un processus de justice qui soit indépendant de ce bruit de fond-là. Pour établir la culpabilité de quelqu'un hors de tout doute, c'est compliqué. C'est vraiment plus compliqué qu'on pense. C'est pas parce que il y a une sale gueule que c'est un coupable. Puis même s'il est coupable, ben peut-être qu'il y a des processus ou des procédures qui, en fin de compte, font que il y aura peut-être pas la peine qu'on pensait qu'elle allait avoir aussi. Donc tout ça est très complexe. En creusant avec des spécialistes pour écrire un livre, je me suis rendu compte que moi-même et beaucoup d'entre nous, on ne connaît rien de notre système de justice, de l'appareil judiciaire. Moi, il a fallu que je me décolonialise aussi de l'imaginaire judiciaire que j'avais, qui est inspiré des films américains sur Netflix. Donc, j'ai eu un consultant carcéral qui m'a dit, par exemple, les prisonniers sont pas habillés en orange, sont habillés en bleu au Québec. Les douches communes, ça n'existe plus. C'est des gens, ils vont individuellement aux douches. À un moment donné, dans la cour, j'avais mis des haltères avec des poids puis des blocs de béton à cause des agressions qu'il y a eu. Maintenant, c'est toutes des barres de traction. Donc, en fait, il m'a mis à jour là, dans un pénitencier Max au fédéral, comment ça se passe, comment ça pouvait se passer. Puis, tu sais, moi, je dis, bon, ben moi, je veux qu'il arrive ça. Comment ça peut se passer dans un cadre comme ça? Donc, j'ai lu, par exemple, un rapport de l'inspecteur du bureau carcéral canadien, ou je sais pas quoi. La lecture la plus plate que j'ai lue de ma vie. Mais ça a été très, très enrichissant parce que, ben, il y avait des photos qui me permettaient de décrire ça a l'air de quoi une prison. Les murs sont de quelle couleur. Une prison. On a de la misère à mettre de l'argent dans nos écoles. Alors on comprend bien que les prisons. Je connais pas un politicien en campagne fédérale qui va dire au débat des chefs, nous allons investir de l'argent dans nos prisons pour que nos prisonniers soient mieux traités. Il n'y a personne qui va faire ça. Non seulement si c'était seulement le cadre physique, mais on apprend aussi, j'ai appris dans ce rapport-là qu'il y avait des volontés d'abaisser le coût par assiette des repas.
C'est en fait un point tournant dans l'histoire.
Ben absolument. Je me suis inspiré justement de ça parce qu'il y a eu une émeute dans un pénitencier en Saskatchewan l'année passée parce que les assiettes doivent passer en bas de 3 $, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de fèves germées puis de pois chiches que de steak dans les assiettes, forcément. Et les prisonniers, ben, ils lèvent de la fonte à la journée longue, puis ils ont faim. Puis quand tu as faim, faut imaginer des carnivores enfermés qui ont faim, ben, ça devient dangereux. Et carrément, il peut y avoir des émeutes à cause de ça. Et donc, j'ai placé le personnage principal au centre d'une émeute qui est reliée justement au coût d'abaissement de la nourriture en prison. Et bon, ça, évidemment, je ne le savais pas. J'avais besoin de dire, ah, faudrait qu'il y ait une émeute, mais quoi? Qu'est-ce qui cause une émeute? Fait que là, en me documentant, je me suis dit, ah, la bouffe, c'est quand même un enjeu de fond au quotidien pour les prisonniers. Fait que c'est ce genre de détails-là qui fait que j'ai le goût de réfléchir puis de plonger.
Oui, puis aussi, justement, dans tous tes romans, j'ai l'impression que tu explores des univers qui sont très différents des uns des autres, que j'imagine que tu peux pas connaître de l'intérieur. Puis c'est toujours très précis, ne serait-ce que la job de fonctionnaire dans Naufrage, l'univers carcéral ici, tout ce qui est par rapport au forage dans Mort-Terrain. Est-ce que c'est toujours tu fais-tu toujours beaucoup de recherches avant d'écrire un roman, en fait? Est-ce que c'est des entrevues, tu vas sur le terrain?
C'est tout ça. La recherche, je la fais surtout pendant, en fait. Ça me motive parce qu'à un moment donné, bon, tu sais, t'écris, puis à un moment donné, t'es tanné d'écrire. Fait que là, tu lis un rapport carcéral ou, bon, par exemple, mettons Mort-Terrain. Puis après, c'est surtout quand le livre est écrit, là, après, je consulte des gens. Tu sais, comme là-dedans, j'ai consulté des gens au DPCP, des procureurs qui ont validé, donc je leur ai fait lire tout le truc. Puis là, ils ont dit, ben là, c'est pas comme ça. S'il est arrêté, c'est un prévenu, c'est pas encore un accusé. Là, après ça, il y a une enquête préliminaire. Après ça, il y a ci, il y a ça. Puis ça, c'est pas les mêmes affaires que dans Netflix puis les trucs américains, parce qu'on a un système de justice différent au Québec, qui est même différent de celui du Canada, même dans certains cas. Et il y a beaucoup de recherches. Par exemple, dans Mort-Terrain, à la première page, le personnage part de Montréal, déménage à Mort-Terrain, un village fictif dans l'extrême nord du Québec, puis il frappe, en arrivant dans le village, il est fatigué, puis il voit la pancarte, il regarde la pancarte, puis bang, il frappe un chevreuil. Et là, il y a un chasseur à qui j'avais donné le livre, ou un ami du bien qui m'avait dit, mais il n'y a pas de chevreuil là, ils sont plus au sud, là, c'est des caribous et des orignaux. Et là, j'ai dit, mais s'il frappe un orignal, il va mourir. Puis s'il meurt, on est à page 1. C'est lui qui raconte l'histoire, fait qu'il n'y aura pas un gros livre. Fait que là, j'étais pogné dans le réel, tu sais, j'étais pogné pour faire rentrer un rond dans un carré. Fait que j'ai appelé au ministère de la Faune, à Amos. Je leur ai dit, bon, ben, j'ai une histoire qui se passe. Là, j'avais nommé le village de Joutel, là, dans l'extrême nord de l'Abitibi. Y a-t-il des chevreuils dans ce coin-là? Fait que, il consulte son ami, puis il dit, ben, depuis 2-3 ans, on en voit au lac Mistawak, parce qu'il y a le réchauffement de la planète, puis il monte, les chevreuils. Okay. Puis le lac Mistawak, c'est exactement là que j'avais mis Mort-Terrain, hein, le village. Fait que là, j'étais, yes, ça marche. Puis c'est toutes sortes d'affaires comme ça qui fait que je réoriente l'histoire. À un moment donné, j'avais mis une scène d'agression dans les douches, puis bon, le consultant carcéral a dit c'est plus possible maintenant. Mm-hmm. Avant, ça se faisait. S'il y a une agression, ça va se faire pendant la période de détente, quand les cellules sont ouvertes, les prisonniers vont se faufiler dans le truc, puis ils vont faire ça rapido presto. Fait que j'ai réorienté. Il m'a dit, par exemple, il n'y a plus d'objets contondants dans les prisons, parce que les prisonniers, c'est des gens très créatifs. Hein. Ouais. Et là, ce dont ils se servent pour casser la gueule au monde, ils font geler une bouteille de coke, puis ils mettent ça dans une tête d'oreiller, puis là, ça devient un fléau, puis une matraque. Ça, c'est la dernière nouveauté en matière d'armes de poing en prison. Okay. Ça, évidemment, je ne savais pas ça du tout. Il faut quand même l'inventer, là. Personne n'aurait pensé à ça. Donc, j'ai réorienté certaines scènes, réécrit même carrément des scènes. Puis moi, c'est mon plaisir aussi de faire de la recherche, parce qu'à chaque fois, effectivement, comme tu dis, je me plonge dans un univers particulier que je ne connais pas ou peu. Pour Mort-Terrain, j'avais vu le rapport du BAP de Malartic deux fois. Fait que là, je savais exactement le procédé, comment ça se passe une consultation publique, comment agissent les compagnies minières, les citoyens, les préoccupations des citoyens, tout ça. Donc, à partir de ça, effectivement, moi, c'est l'occasion de me documenter sur un sujet en particulier, puis après ça, d'intégrer ça dans le roman pour faire passer de la matière. Ça devient comme un médicament ou quelque chose qui est nutritif, mais qui goûte bon quand même, avec la trame narrative puis les personnages.
Effectivement, ça ne devient jamais lourd, ça ne devient jamais non plus.
Non, faut pas que ça prenne le dessus. Faut pas qu'on ait l'impression qu'on lise un rapport de recherche d'un étudiant de la maîtrise. C'est non, ça. Sinon, j'ai raté mon coup. Faut quand même. Moi, la chose la plus simple, mon enjeu principal quand je lance un livre ou quand je fais lire un livre à des gens, c'est de dire, avez-vous envie de tourner la page? C'est ma seule préoccupation. Parce que, tu sais, nos vies sont tous très occupées. On a milliards de choses à faire plutôt que de lire un livre. Donc, quand moi, je ne me rappelle plus quel écrivain avait dit, moi, je ne dérange pas mes lecteurs pour rien. C'est quand je... okay. Puis j'aimais ça comme idée de dire, moi, si je lance un livre, je vais m'organiser pour qu'il soit plaisant à lire puis qu'il y ait quelque chose de nutritif aussi. Quand on a refermé le livre, il reste quelque chose à la fin. On a envie peut-être d'en discuter. Dans ce cas-là même, on aurait envie de le relire par la fin pour recommencer l'histoire dans son ordre chronologique. Donc, puis l'idée d'être dans la vérité, pour moi, c'est important parce que mes romans, ils se passent au Québec, dans toutes sortes de milieux, de conditions différentes. Bien, de témoigner du Québec dans ce qu'il est, à un moment donné de son histoire, c'est vraiment important pour donner aux Québécois une vision d'eux-mêmes, un miroir, puis pour donner la chance aux autres aussi qui ne nous connaissent pas de connaître le Québec par la littérature. Fait que quand je suis allé parler de Mort-Terrain à la suite du prix, je suis allé en France, je suis aussi allé en Allemagne, je suis aussi allé en Suède, où ils ont des problèmes avec les compagnies minières qui plantent leur forage dans les pâturages des rennes pour les Samis, en fait, les populations autochtones là-bas. Donc, on avait, même si on était à des milliers de kilomètres, ils comprenaient très bien ce que je disais. Il y a un territoire, j'ai été frappé de voir comme un territoire en plein hiver, la Suède, tu pourrais croire au Québec, strictement au niveau de la forêt, pas de l'architecture, mais comment on a des civilisations nordiques similaires. Puis, j'ai été étonné de voir qu'il y avait plein de gens qui s'intéressaient au Québec par le biais d'une littérature, parce qu'ils vivaient justement des enjeux similaires aussi. Quand je parlais, par exemple, aux Allemands, je leur parlais des pensionnats autochtones. Ben, eux, c'est pas leur premier barbecue en matière de camp de ce type-là, ouais. Parce qu'en 1910, le sous-ministre des Affaires indiennes, Duncan Campbell Scott, a dit les pensionnats indiens, ça va devenir la solution finale au problème indien. Ouais. Ça, 1910, c'est quand même 30 ans avant les nazis. Là. Ouais. Fait que qui s'est inspiré de qui, là? Faut quand même le savoir. T'sais. Alors, quand tu vas parler de ça aux Allemands,
ça résonne.
Ben oui, ça résonne, ça connecte.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est encore là, il y a des gens qui lisent mon terrain et disent hey, je ne savais pas, les pensionnats, je ne savais pas que le dernier avait fermé, pas en 1922, en 1996, ouais. En Saskatchewan. C'est quand même fou, là. Ça fait pas 2000 ans. Là. Et donc, quand les lecteurs disent ben, j'apprends des choses où je n'étais pas au courant, où je ne le savais pas, tout en ayant du plaisir, parce qu'il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait des enjeux. Ben là, moi, j'ai réussi mon coup si je peux faire ça.
Oui, justement, les qualités que tu abordes dans tes livres, souvent, c'est des qualités qui sont un peu méconnues du public, qu'on va entendre parler de façon seulement très superficielle, sensationnelle, genre au téléjournal. Tu sais, les carrés rouges, oublier son enfant dans une voiture, les compagnies minières, dans les territoires qui sont plus éloignés. Est-ce que tu as comme volonté un peu de faire œuvre utile avec ton écriture, de faire découvrir ces choses-là, de faire réfléchir les gens?
Je dirais que c'est un dégât collatéral. Tu sais, c'est vraiment, oui, tant mieux, vraiment, si ça peut. Comme par exemple, avec Naufrage, justement, qui m'avait été inspiré par un fait divers. Le livre est sorti en février, il y a quelques années, et au mois d'août, il est arrivé la même chose qui est arrivée dans mon livre. Comme si la fiction rencontrait la réalité, et je me rappelle encore, Paul Arcand avait fait une entrevue avec le monsieur en question, et j'écoutais ça, puis je tremblais, parce que la manière dont il racontait ce qui s'était passé, j'avais l'impression qu'il lisait mon livre carrément. Mm-hmm. Et après ça, Paul Arcand a dit, ce monsieur-là, qui est un courage extrême, avant d'y lancer des pierres, allez lire Naufrage de Bis, puis vous allez peut-être changer votre opinion par rapport à ce gars-là, puis par rapport à ce qui est arrivé. Fait que ça, dans ce cas-là, oui, moi je crois profondément que l'art en général, la littérature en particulier, peut faire œuvre utile, peut faire évoluer les mentalités. Bon, évidemment, c'est pas 8 millions de Québécois qui ont lu Naufrage, mais tu sais, c'est le livre qu'on en a quand même vendu 25 000, ce qui est beaucoup au Québec, donc on peut penser qu'à travers les bibliothèques, puis que le fait qu'un livre se promène de main à main, il y a peut-être 100 000 personnes qui ont lu le livre, qui en ont peut-être parlé autour d'eux, donc quelques centaines de milliers de personnes qui ont été conscientisées ou touchées par cette histoire-là, cette façon de voir les choses. Peut-être que ça peut un peu, je le dis très modestement, contribuer à faire, pas tant évoluer, mais à faire, à influencer l'opinion publique d'une certaine manière.
Oui, peut-être justement à faire en sorte que certaines personnes pensent plus avant d'aller mettre des commentaires haineux sur
des... Ben exactement. Moi, si on peut... Tu sais, ça fait deux fois que je traite de ça dans des romans, quelques années d'intervalle, parce que je trouve qu'entre les deux, ça ne s'est pas vraiment amélioré, bien au contraire.
Oui, c'est peut-être... Il y a de plus en plus de monde là, sur Facebook qui réfléchissent de moins en moins, on dirait.
Exactement, oui. Oui, puis tu sais, l'intelligence collective, on dirait que des fois, plus on est de monde ensemble, plus on est capable d'une certaine façon, parce que on a un certain anonymat hein, dans la foule aussi. On va voir un match des Canadiens, on a bu un peu, on gueule. Puis là, on peut se laisser entraîner par le courant vraiment. Puis c'est pas qu'on est une mauvaise personne nous-mêmes, c'est juste que c'est une dynamique de groupe qui opère un changement dans la mentalité. Puis Internet, les réseaux sociaux font ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et me préoccupe aussi. Ouais. Puis tu sais, tu le disais tout à l'heure, les trois phases, les trois chapitres différents permettent de porter trois jugements sur Catherine et son père à chaque fois. Puis ça, je trouve ça intéressant de voir qu'on peut justement dire notre jugement sur les gens, il peut évoluer.
Ouais.
Tu sais, notre perception sur les gens, c'est sain de ne pas toujours rester figé, genre... Ah, lui, ce chef de parti-là, je l'ai vu une fois dire quelque chose au débat des chefs, c'est un hostie d'épée. Puis là, c'est un hostie d'épée pour le restant de l'humanité puis de l'éternité. T'sais. Fait que peut-être que ta perception, selon un contexte, selon plein de choses, puis là, je parle d'un chef politique, mais ça peut être un citoyen lambda à qui arrive quelque chose. Ben, je sais pas, la moindre des choses, si on n'est pas dans un jury ou à la cour, ben, au lieu de juger, justement, on peut à tout le moins se garder une réserve et une distance pour essayer d'apprécier les faits avant justement de juger. Parce qu'on ne soupçonne pas le mal que ça peut faire,
ouais,
un commentaire sur les réseaux sociaux. C'est, ça peut être... Puis quand ça se met, comme j'explique dans le livre, une mordée de piranha, ça ne va pas te tuer. T'sais. C'est des petites dents, c'est pas beaucoup. Une mordée. Mais 100 puis 2000 mordées, là, à un moment donné, il n'y a plus de chair autour de l'os. Là. Donc, c'est l'idée de la multitude et de la répétition qui peut rendre ce genre de dynamique-là assassine.
Ouais. Et je change un peu de sujet, mais en fait, j'aime ça qu'on parle des personnages. C'est sûr que j'aime beaucoup dans tes livres. Il y a tout le temps une multitude de personnages très différents les uns des autres, qui sont super bien écrits, même des personnages secondaires ou même tertiaires. Ils vont avoir des caractéristiques précises. Donc, je veux savoir comment tu t'inspires pour trouver ces personnages-là sans tomber dans les répétitions ou les ouais. caricatures, tu sais.
Ben, ce qui est formidable d'un écrivain, c'est que j'ai juste à m'ouvrir les yeux puis les oreilles. Puis, tu sais, ici, il y a plein de personnages dans un roman. Il y a des gens qui sont réunis puis avec des caractéristiques particulières, des physiques et des tics, des positions, des postures, des façons de parler. Et donc, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, de très observateur de nature. Mon grand fun, le soir, quand je me promène dans la rue, c'est de regarder la par les fenêtres allumées qui nous donnent littéralement une télévision sur la vie des gens, regarder des scènes quotidiennes d'un souper en famille ou de quelqu'un qui passe l'aspirateur, et des interactions, puis je reste pas là 3 heures, évidemment, mais juste de passer, de regarder ça, ça je suis curieux, là j'ai une fraction de vie d'une personne, donc qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, c'est quoi la vie quotidienne d'une personne, donc ça m'intéresse depuis toujours, puis particulièrement depuis que j'écris des livres, parce qu'évidemment, ouais. là, ça devient de la matière première des personnages. Puis je suis content que tu mettes l'accent là-dessus, parce que cet été, quand je corrigeais le livre, je suis repassé à travers le livre, puis on m'avait fait remarquer qu'on aimait bien justement le fait que je décrive des personnages très visuellement, assez simples. Avec, en prison, évidemment, c'est des personnages plus grands que nature. Ils ont des tatous, ouais. des barbes, c'est des colosses ou des petits nerveux. Donc, c'est une galerie de personnages incroyables. Donc, comment être capable de rendre ça visuellement avec juste des mots? Ben, je suis passé donc à travers tout le livre et j'ai épaissi chacun des personnages avec une caractéristique. À un moment donné, je me suis dit, ah tiens, je vais mettre un prisonnier. Puis lui, il apparaît, il est là 2 fois, je pense. Mais il est là 2 fois, mais on l'imagine qu'il est là un peu tout le temps. Puis un coup qu'on l'a visualisé, on le voit parmi la foule, exactement. Ouais. Comme un personnage au cinéma qu'on a vu isolé une fois, puis qu'on revoit après dans la foule. Puis je me suis dit, imaginons qu'il y a des tatous jusqu'aux jointures ici, comme plusieurs personnes en ont maintenant, puis qu'il y a des grands cheveux blancs attachés comme ça, puis qu'il y a un port assez raide, puis dans ce cas-là, c'est un violeur en série qui s'est ramassé là. Puis là, je dis que c'était le sosie de Karl Lagerfeld, tu sais, qui ressemble à Karl Lagerfeld. Parce que comme Karl Lagerfeld avait toujours des gants, ben lui, il a des gants d'encre, en fait. Et donc, c'est improbable, évidemment, c'est bizarre. On n'imagine pas Karl Lagerfeld dans un pénitentiaire par quartier, mais on voit quand même, on le voit, un coup qu'on l'a vu, on le voit, tu sais. Mm-hmm. À un moment donné, il y en a un dont je fais tatouer un scorpion dans le cou. Puis dans le métro, hier, j'ai vu un gars avec un tatou de scorpion, donc ça existe encore. Et à la suite, c'est le lieutenant qui exécute les basses besognes d'un chef dans la prison, parce qu'il y a toute une hiérarchie dans les prisons. Et c'est lui qui commet l'agression avec la bouteille de Pepsi. Et il travaille très rapidement, très fort, en silence pendant très peu de temps, puis après il est essoufflé, puis il a chaud, et il y a donc une veine qui bat dans son cou et qui donne un ersatz de vie au scorpion qui a tatoué dans le cou, comme si le scorpion devenait vivant à cause de la pulsation. Et donc ça, c'est des détails, c'est insignifiant même, mais c'est tout, j'ai refait un passage complet justement pour étoffer les personnages en deuxième puis au troisième plan. Donc, je suis très content que tu l'as remarqué, ça veut dire que je n'ai pas fait ça pour
rien. Non, mais ça donne vraiment, puis dans tous tes livres, en fait, j'ai vu ça donne des univers fictionnels qui sont très complexes, sont très colorés et complexes. C'est vraiment intéressant. Tu as écrit donc, j'allais dire au début, 7 romans en une dizaine d'années et un livre jeunesse. Comment est-ce que tu arrives, c'est quand même c'est très prolifique là, pour un auteur, là. Comment tu arrives à maintenir un rythme de travail qui te permet de publier autant? Ou est-ce que tu écris juste super vite?
Ben, Je dirais que mon secret est très simple, c'est que mes livres sont très petits. Okay. Si vous remarquez, là, des rives, c'est microscopique, là, ça se lit entre deux biberons. Cadillac, le dernier, il n'y a pas 100 pages non plus. Le plus gros, c'est Martin Rhin, je pense que ça fait même pas 250 pages. Donc, mais c'est pas calculé pour dire « Ah, je vais en faire des plus petits, comme ça va me prendre moins de temps, comme ça, je vais inonder le marché. » C'est pas ça la logique du tout. Ma logique, moi, c'est plutôt quand j'écris de dire à la fin, j'ai écrit plein de mots. Bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour enlever tout ce qui est inutile? Donc, c'est comme un peu des bonsaïs. Tu sais, les bonsaïs, tu les tailles pour qu'ils prennent la bonne forme. Mais l'idée avec le bonsaï, c'est toujours d'en enlever. T'sais. C'est comme faire de la sculpture. T'sais. C'est d'enlever de la matière pour qu'à la fin, il reste juste ce qui doit rester. Donc, c'est pour ça qu'ils sont petits. C'est parce que j'enlève le plus de mots possible. Des mots qui ne sont pas nécessaires. Des mots, des fois, des paragraphes. Je l'ai déjà dit ça avant. Je n'ai pas besoin de le répéter. Il faut faire confiance au lecteur aussi. Tu ne peux pas dire, tu peux pas tout donner tout le temps au lecteur parce que sinon, ça devient plate. Donc, lui en donner juste assez pour qu'il y ait assez de stock pour construire son film avec le scénario. Donc, en premier lieu, les livres sont courts. Ouais. Puis en second lieu, moi, j'ai vraiment la chance de ne faire que ça à temps plein. Yeah. C'est-à-dire que c'est mon travail depuis, je dirais, 2010, là, depuis presque 10 ans maintenant. Et ça, c'est une grande richesse. Ouais. Essentiellement, ça prend deux choses pour écrire. C'est pour ça, c'est ce que je dis aux prisonniers quand je vais les visiter pour leur dire « vous devriez écrire », ça prend du temps et des choses à dire. Ils ont les deux. Les prisonniers, ça les deux. Les personnes âgées ont souvent les deux aussi. De plus en plus, je fais ça des rencontres dans les CHSLD pour dire, rencontrer les gens, leur parler de littérature. Puis c'est souvent des très bons lecteurs des personnes âgées parce qu'ils ont du temps. Et c'est souvent, puis c'est ce que je leur dis aussi, vous êtes souvent peut-être des écrivains, ou en tout cas peut-être des écrivains du dimanche ou à temps partiel, mais des gens qui avaient tout avantage à communiquer leurs pensées par écrit, leurs histoires, les trucs familiaux qui s'effacent au fur et à mesure. Parce que ma grand-mère, à un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, vieillir, c'est le fun de vieillir parce que tu vis longtemps, mais tu vois tous tes amis mourir. Puis à un moment donné, il y a juste toi qui reste. C'est la vérité, c'est ça aussi. Fait que vieillir dans ces conditions-là, c'est-tu vraiment si le fun que ça? Donc, quand t'as... Il y a souvent des personnes âgées qui me disent, moi, j'aimerais raconter l'histoire de ma famille, j'aimerais dire ce qui s'est passé dans ma famille. Puis moi, je dis, parfait, quelle bonne idée. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Puis Dieu sait où ça peut nous mener après la publication. Donc, moi, c'est ça, le fait que je puisse écrire à temps plein quand mes enfants sont à l'école, réfléchir, regarder des vidéos YouTube quand j'ai voulu en regarder, puis faire de la promotion, là, parce que, tu sais, là, mon travail, tu sais, j'ai terminé l'écriture des abysses, mais là, tu sais, le bébé est fini, on a coupé le cordon, mais là, je vais présenter le bébé, puis ça, c'est la partie la plus fun, tu sais, voici ce que j'ai fait, puis là, je reçois les commentaires, ah, il a amené de son père, il y a des grands pieds, ah, c'est ça, puis là, c'est le fun de voir quand ça concorde, enfin, parce que quand la réception est bonne, évidemment, c'est plaisant de faire ça, donc je le suis souvent dans les bibliothèques, dans les écoles, là, je fais des librairies aussi, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire là, on pense qu'on est... On a accès à la pensée d'un grand auteur. C'est une infopublicité de TVA là, qui se passe. Là. J'étais en train de vous dire d'acheter le livre à la fin, là, essentiellement. Mais on peut joindre l'utile à l'agréable aussi.
Tu parlais de couper tes livres comme des bonsaïs. Puis justement, c'est un autre aspect que j'aime de ton écriture, c'est que c'est des livres très bien rythmés. Puis c'est peut-être parce que je sais déjà que tu es un rappeur, puis je veux faire un parallèle avec ça. Oui. Mais je sens quand même dans ton écriture qu'il y a vraiment un souci du rythme dans les phrases même. J'ai l'impression que c'est des phrases très travaillées sur le plan des sonorités aussi. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ton écriture de rappeur et ton écriture de romancier?
Oui, parce que c'est quand même un travail d'écriture. Ouais. Donc, la comparaison la plus simple que je peux faire, c'est que je suis passé de sprinteur à marathonien. Okay. Les deux, c'est de la course. Donc, les deux, on court. Mais l'entraînement n'est pas pareil. Il y en a un qui demande plus de souffle à long terme. Parce qu'écrire un roman, quand tu commences, là, t'es devant les vertiges des abysses, là, parce que c'est comme tabarne. Tu sais, ton document Word, au début, c'est du néant. Il n'y a rien. Il n'y a littéralement rien. Puis tu le vois, là, quand tu le fermes, ben là, c'est comme 50 cas ou 200 cas. Tu sais, tu vois le poids des mots. Puis au début, c'est zéro cas. Tu sais, il n'y a littéralement rien. Donc, t'arraches vraiment du sens ou de la signification au néant. Puis ça, ça finit par, c'est ça, par devenir de plus en plus dense. Puis donc, ça demande beaucoup de souffle par rapport à une chanson de 2 minutes, mettons.
Okay.
Mais il y a quand même toujours l'idée d'avoir le mot juste.
Mm-hmm.
Puis vers la fin, même avec les derniers trucs que je faisais avec Loco, les derniers textes de rap que j'écrivais, je me sentais pas toujours esclave de la rime non plus, tu sais.
Ouais.
Parce que souvent en rap ou en chanson, il y a toujours la rime qui arrive à la fin, qui est un peu, des fois, souvent très prévisible. Puis c'est pas intéressant de se sentir esclave de la rime ou d'un procédé rhétorique en particulier. Donc, avec le roman, par contre, il y a toujours une exigence. Le rap, quand t'écris à voix haute, t'es dans le gueuloir de Flaubert, évidemment, parce que c'est... L'écriture est une transition vers la finalité qui est l'oralité, bien sûr, dans le cas du rap. Mais dans le cas du livre, bien que on puisse des fois lire le livre à voix haute, là, dans des lectures publiques, mais en général, on lit dans notre tête, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de son de prononcé, qu'il n'y a pas de musique ou de rythmique ou de son qui est décodé par le cerveau. De la même façon que Beethoven était capable d'entendre son orchestre, même quand il n'y avait plus d'oreilles, parce que ce qui fait qu'on décode le son et qu'on comprend ce qu'est le son, c'est le cerveau. C'est avec le cerveau qu'on entend littéralement. L'oreille, c'est un conduit, c'est un capteur. Alors, même quand on lit dans notre tête, il y a un rythme, il y a du son. Et oui, le rythme est important. Par exemple, si un personnage on est dans une poursuite policière, donc le personnage court, il sort de son char, il claque la porte, il se sauve, il rentre, il se baisse, il se tasse. Donc là, on a des phrases très courtes, des fois même un enfilade de seulement des mots pour dire ça va vite, c'est très, très achuré, puis il y a un beat, là, il y a du son. Alors que si le personnage est devant un pont, puis il médite dans une réflexion métaphysique, bien là, on va avoir des grandes phrases avec un point-virgule parce qu'on est perdu dans des pensées, puis on peut se permettre d'allonger les phrases. Ou strictement au niveau du son des mots. Il y a des mots des fois qui ne sonnent pas bien, j'essaie de changer la formulation, tout ça. Mettons, je dis un canon et une horloge, il y a une enfilade de voyelles qui sont saccadées, qui ne sonnent pas bien, alors on est mieux de dire une horloge et un canon avec la liaison, ça sonne mieux. Même si c'est destiné à l'écrit, je vais toujours... souvent, j'écris à voix haute les dialogues, évidemment. Oui. Tous les dialogues, je les écris à voix haute et aussi pour que ça sonne le plus justement possible. Pour moi, peut-être parce que je viens du rap, justement, où j'ai une conscience plus aiguë du son et du rythme des mots. Mais tu sais, quand on dit... C'est un grand compliment quand on me dit « le livre est bien écrit ». Tu sais, on peut aimer un livre pour toutes sortes de façons, mais quand on me dit « le livre est bien écrit », une façon de dire j'aime le style de l'écrivain. Essentiellement, moi, c'est ce qui m'intéresse quand je lis un livre, c'est le style. C'est pour ça que j'aime Céline, c'est pour ça que j'aime Houellebecq, parce que c'est des stylistes, des grands stylistes. Quand on dit que c'est bien écrit, ça peut être bien écrit pour toutes sortes de façons. Dans le cas des Abysses, il y a une structure à rebours qui donne une vision du récit. Dans le cas, par exemple, de Naufrage, au milieu du livre, le drame survient, la cassure est là dans l'histoire. Donc, il y a un changement aussi au niveau du ton. Avant, on était en imparfait dans le passé composé. Après, on est au présent. Donc, on est dans le présent parce que le personnage est enlisé dans son présent, enlisé dans son deuil, dans sa peine. C'est comme si on avait ralenti la caméra puis qu'on met les choses au ralenti. Donc, c'est les mêmes images, c'est le même univers, mais on les perçoit au ralenti. Donc, les gens, évidemment, ils notent pas ça. C'est du travail dans la cuisine. On n'a pas d'affaire à voir comment c'est fait dans la salle à manger. Ce que tu veux voir, toi, c'est l'assiette, est-tu belle, puis ça goûte-tu bon.
Mais ça se ressent, puis ça s'apprécie aussi. Hein? Certainement, ça rend la lecture plus agréable.
Oui. Toi, par exemple, qui es une libraire, une spécialiste qui doit lire à peu près 15 livres par jour, c'est sûr qu'à un moment donné, tu développes une sensibilité pour le travail en cuisine, justement, parce que tu sais comment c'est fait, tu en as lu beaucoup. Mais le lecteur lambda ou le lecteur normal, lui, il lit, puis il y a du fun ou il n'y a pas de fun. Puis s'il trouve qu'il y a du fun, après ça, on peut creuser pour savoir pourquoi il y a eu du fun, justement. Puis c'est moi, effectivement, avec Jean-Barbe, on travaille énormément la structure, les mots. Après ça, puis c'est des passages là, que Le roman est écrit, l'histoire est écrite. Parfait. Après ça, je fais réviser par des spécialistes pour voir ça, l'histoire est-tu crédible, elle marche-tu. Après ça, je refais un passage pour savoir, pour épaissir les personnages secondaires ou tertiaires. Après ça, je fais corriger par des correctrices. Puis là, on s'ostine des fois sur des mots. C'est-tu un divan ou c'est un sofa?
Ouais.
Oh, Chris, de bonne question. Il y en a un qui a des accoudoirs, l'autre qui n'en a pas. Ben là, il faut que je réfléchisse. On s'assoit dans un sofa, mais sur un divan. Donc, tu sais, c'est tout des trucs comme ça qui font qu'il y a beaucoup de monde qui passe sur le livre. Il y a moi qui repasse sur le livre en long et en large, de sorte qu'en bout de ligne, justement, le bonsaï, à un moment donné, on est rendu à ces feuilles par feuille, pratiquement, pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y a quelque chose de valable. Puis bon, là, dans ce cas-là, j'ai rajouté une cape. Donc, j'ai un ami graphiste que j'ai invité chez nous. On a payé une coupe de gin tonic, puis on a conçu la carte.
Oui.
Parce que moi, j'avais toujours Google Maps quand j'écrivais, pour me dire avec les temps de distance, t'as 10 minutes de marche, t'as 15 minutes de char, là il y a une rivière, là il y a ci, là il y a ça. Puis si moi je l'ai pour lire, ben pourquoi le lecteur ne l'aurait pas lui pour reprendre, s'imaginer lui aussi ce truc-là. Donc ça c'est un ajout que j'ai fait aussi par la suite. La couverture aussi que j'ai travaillé encore une fois, ça m'a coûté du gin tonic, ça finalement
c'est sans gin tonic,
tout serait en gin tonic, mon ami graphiste aussi. Puis j'avais une photo que j'avais trouvée sur Shutterstock où j'avais l'idée d'une créature des profondeurs. Ouais. Je travaille la couverture aussi, c'est le souci. On fait ça à la fin évidemment, mais tout pour moi doit être cohérent. Peut-être parce que je viens du rap et que je... Quand tu fais un disque, la pochette de disque est importante, elle donne une idée de première impression aussi. Puis pour moi, tout ça, le visuel aussi, doit être cohérent avec le livre.
Merci beaucoup pour l'entretien.
Merci
à tout le monde qui vient de la patronne. Donc, parlant de dédicace, on va faire un petit point sur la table juste ici. Pendant quelques minutes, vous pourrez venir faire des dédicaces au livre.